Alors, nous continuons aujourd'hui sur la question de la révélation du mystère de la personne du Christ dans les évangiles, en prenant, nous l'avions vu la dernière fois, à la suite du prologue de Saint Jean, qui nous éclairait de manière essentielle sur la révélation de la personne du Christ, en prenant cette fois-ci le chapitre 5, en son entier, donc de ce même évangile de Jean, tout en faisant appel également aux synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Disons d'abord que ce chapitre 5 de l'évangile de Jean contient des paroles absolument essentielles quant au mystère de la personne du Christ. Ces paroles, d'ailleurs, nous introduisent très directement sur la nature des relations entre le Dieu Père et le Christ. Et en cela, elles font écho à nombre de versets du prologue de ce même évangile, comme nous allons le voir. Alors, de quoi s'agit-il dans le chapitre 5 ? D'abord, nous sommes là dans le cadre de la guérison d'un infirme à la piscine de Bethesda. Et c'est dans ce cadre-là que nous trouvons tout un discours sur le pouvoir du Fils, que nous trouvons des paroles de révélation qui nous dévoilent la nature des relations du Père et du Fils. Jésus nous dit, le début du chapitre 5, Jésus monte à Jérusalem. Après la guérison du fils d'un fonctionnaire royal lors du second signe de Cana, il monte à Jérusalem. Et le fait qu'il monte à Jérusalem indique, comme le mentionne d'ailleurs le premier verset, qu'il y eut une fête des Juifs. Parce qu'on monte à Jérusalem pour une fête. Alors, laquelle fête eut lieu, comme le précise le verset 9, la deuxième partie du verset 9 de ce cinquième chapitre, un jour de sabbat. Il y a donc une concordance entre cette fête et un jour de sabbat, cette année-là. Comme je le disais, on monte à Jérusalem de tout Israël et même de la diaspora du bassin méditerranéen, pour ceux bien sûr qui le peuvent, pour les trois grandes fêtes d'obligation. Pessah, la Pâque, Shavuot, 50 jours après la Pâque, qui est la fête du don de la loi, et Sukkot, la fête des tentes, avec l'illumination au temple et la procession avec des palmes autour de l'autel. Alors, de quelle fête s'agit-il ? Il y a plusieurs hypothèses qui sont formulées à ce propos-là, puisque le texte ne le dit pas explicitement. Si l'on suit ce qui précède, on peut supposer qu'il s'agit de la fête de Shavuot, donc 50 jours après Pessah, après la Pâque. Mais d'autres hypothèses disent qu'il s'agirait de Sukkot, en fait de la fête des tentes. En vérité, nous n'avons pas de certitude à ce sujet. Il y a même des auteurs qui disent que c'est probablement donc sous code de l'an 28 que cette montée de Jésus eut lieu à Jérusalem. Mais on n'a pas de certitude. S'agit-il de Shavuot, s'agit-il de Sukkot, on ne sait pas trop. Alors le cadre de cette guérison à Jérusalem, lors d'une grande fête juive, c'est la piscine de Bethesda, qui est, nous dit le texte, près de la porte des brebis. C'est la piscine aux cinq portiques du temple. C'est la piscine aux cinq portiques, voilà, oui. La porte des brebis, oui, c'est là que je veux en venir, c'était le lieu où étaient rassemblées les brebis qui feront l'objet de sacrifices au temple. Et il faut noter d'ailleurs à ce propos que l'archéologie biblique, qui est en ces temps-ci décidément de plus en plus intéressante, a permis de mettre à jour des restes d'installations avec des bassins d'eau, là justement où Saint Jean indique cette piscine de Bethesda dans son évangile. Il faut se souvenir que l'évangile de Jean est le fait d'un témoin oculaire. Et l'évangile de Jean comporte de très grandes précisions sur les lieux, entre autres choses. Donc là, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a toutes sortes de malades, il y a des impotents, il y a des boiteux, il y a des aveugles, comme nous le dit l'évangile. Et tous ces malades, bien sûr, sont les signes de l'humanité souffrante. Et tous ces malades, eh bien, ils attendent une possible guérison. Et comment cette guérison peut éventuellement intervenir? Eh bien, le quatrième verset nous le dit. Les malades dont il s'agit attendaient, je cite, l'agitation de l'eau, car à certains moments, l'ange du Seigneur descendait dans la piscine. L'eau s'agitait et le premier qui y entrait, après que l'eau avait bouillonné, était guéri, quelle que fût sa maladie. Fin de citation. Et dans le texte grec, d'ailleurs, le terme d'asthénéia désigne, d'une manière générale, une faiblesse, un manque de vigueur et donc par extension, tout état de maladie, quelle que soit les différentes formes de ces maladies. Alors, donc, ce cinquième chapitre est ouvert par ce récit de la guérison à la piscine de Bethesda. Et on peut, je pense, le diviser en trois grandes sections. D'abord, le contexte de ces paroles de révélation. Le contexte, on vient d'en parler, la guérison d'un paralytique. Ça va du premier verset au verset 17, donc du chapitre 5. En deuxième lieu, il y a tout un discours sur l'œuvre du Christ, le Fils de Dieu, un discours de lui-même, prononcé par lui-même, sur le mystère de son union avec le Père, donc chapitre 5, versets 19 à 30, et en troisième lieu, les témoignages en faveur du Christ, Fils de Dieu. Donc, chapitre 5, versets 31 à 47. Donc, qu'il me soit permis d'abord de revenir à la guérison du paralytique, parce qu'elle nous donne déjà un enseignement précieux sur l'œuvre que le Christ accomplit. Il nous est dit, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. 38 ans, évidemment, c'est une durée très longue qui compte dans la vie d'un homme. Remarquons au passage que c'est presque identique à la pérégrination des Hébreux au désert, 40 ans. Et certaines interprétations semblent nous renvoyer, quant à ce chiffre 38, à un terme hébreu, Gala, Gimel Lamed E, qui signifie révéler des choses profondes, et qui par là ferait allusion à la prophétie de Daniel au chapitre 2, verset 22. Écoutez, je ne suis pas en mesure d'aller plus loin quant à cette interprétation. Il me semble qu'elle est plutôt rare, donc je la laisserai de côté. Mais quoi qu'il en soit, et pour mesurer la nouveauté de cette guérison, il faut considérer les deux signes de Cana. Parce que si on met en regard cette guérison à la piscine de Bethesda avec les deux signes accomplis par le Christ à Cana, on a un enseignement qui nous fournit des choses très précieuses sur l'œuvre accomplie par le Christ. D'abord, le premier signe de Cana, il est accompli sur l'intervention, ou plus exactement sur l'intercession de la Mère de Dieu, la Vierge Marie. À la demande de la Mère de Dieu. D'autre part, le second signe de Cana, bon, vous souvenez, c'est la guérison du fils d'un officier, donc au chapitre 4, les versets 46 et 54, qui relate ce second signe de Cana. Ce second signe de Cana est accompli sur la prière instante de cet officier qui manifeste sa foi en appelant Jésus Seigneur. Et quand il l'appelle Seigneur, ça ne veut pas dire là simplement Monsieur. Ça veut dire qu'il reconnaît dans celui qui est en face de lui quelqu'un qui a un grand pouvoir. Il n'est pas évident qu'il discerne totalement de qui il s'agit, mais il sait qu'il a un grand pouvoir. Et là, au chapitre 5, la situation est quelque peu différente, parce que Jésus voit cet homme qui est couché, hein, le grabataire depuis 38 ans déjà, et il apprend qu'il est depuis très longtemps dans cet état, et il lui pose une question, mais qui est vraiment de la plus haute importance dans l'Évangile. La question, c'est la suivante. Veux-tu guérir? Alors que dans certains récits de guérison que nous trouvons dans les évangiles, il n'y a aucune question préalable. Le signe accompli, le miracle, si vous voulez, de la guérison, mais je préfère ce terme de signe. D'ailleurs, Saint Jean emploie ce terme de signe. Eh bien, c'est absolument gratuit, sans aucune demande préalable du futur bénéficiaire de cette guérison. Et là, au contraire, la guérison est précédée par cette question vraiment essentielle, veux-tu guérir ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question « Veux-tu guérir ?» À mon sens, ça signifie « Crois-tu, sous-entendu as-tu la foi, que moi, le Seigneur, j'ai le pouvoir de te guérir ?» C'est ça que signifie cette question de mon point de vue. Alors évidemment, cette question, elle intervient dans ce contexte spécifique lors d'une grande fête des Juifs à la piscine de Bethesda. Ça, c'est le contexte historique. Mais par-delà ce contexte historique et la guérison accomplie par le Seigneur, c'est une question qui se pose aux hommes de toutes les générations, veux-tu guérir ? Parce que tout homme venant dans le monde est spirituellement malade à cause du péché. Tout homme, à cause du fait qu'il est coupé de la source divine, à cause de sa nature déchue, à cause de l'héritage de la corruption et de la mort, eh bien, il est spirituellement malade, quand bien même serait-il en pleine santé sur le plan physique, il est spirituellement malade, et cette question s'adresse aussi à lui. Alors ici, justement, on remarque, parce que cette question « veux-tu guérir ?» a été posée, on remarque que la grâce de la guérison qui est donnée à ce paralytique, grâce qui est toujours un don gratuit de Dieu, bien sûr, eh bien, elle va de pair avec l'effort humain. Parce qu'il est dit à la suite, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Donc cette question si décisive, « Veux-tu guérir ?» elle met en fait l'homme intérieurement en mouvement. Aussi parce que cet homme qui est paralytique, qui est grabataire, il est habité depuis très longtemps du désir de recouvrer la santé. Et donc, la question que lui pose le Christ le met en mouvement, suscite son désir, je veux dire, fait monter son désir de guérison et le met en mouvement intérieurement. Celui de la piscine de Bethesda comme tous les malades de toutes les générations. Or, ce jour était un jour de sabbat, le jour de la fête. Nous est-il précisé au verset 9b. Alors, là, la précision est importante parce qu'on va voir qu'à la suite, il va y avoir une controverse avec les pharisiens. Selon la Mishnah, nous savons qu'il y a près d'une quarantaine d'interdictions de faire pendant le sabbat. Je crois qu'il y en a 39 exactement, j'en suis pas sûr. Enfin, il y a peut-être 40 ou 39, je ne sais plus. Mais donc c'est quelque chose qui est très codifié. Et justement, la dernière interdiction... elle concerne le fait de porter un objet d'un endroit à un autre. Donc, le signe que Jésus accomplit en ce jour correspond à une transgression selon la casuistique pharisienne, laquelle, on sait, au fur et à mesure du temps, s'est considérablement développée. Hein ? Et peut-être que... lorsque le Christ s'adresse avec véhémence aux pharisiens en disant qu'ils ont recouvert la parole de Dieu avec leurs traditions humaines, eh bien, cette casuistique est visée très directement. Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils interrogent le paralytique qui a été guéri, mais... le texte le dit, il n'a pas vu celui qui l'a guéri. Il ne l'a pas vu. Il le verra simplement en le rencontrant ultérieurement au temple, et il s'entendra dire cette parole tout à fait décisive également, « Te voilà bien portant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Autrement dit, Il te faut désormais vivre selon le don de guérison que tu as reçu. Et dans le cas contraire, tu retomberais dans une situation pire que celle de ton état précédent. Alors ça, c'est valable. C'est pas propre à cette guérison. Toutes les fois que le Christ donne la grâce de guérison, il y a toujours une notation explicite ou implicite de cet ordre de prendre garde à ne pas retomber dans une situation antérieure. Et généralement, d'ailleurs, toutes les grâces qui sont accordées par le Christ à ses fidèles, eh bien, ces fidèles doivent veiller à garder ces grâces et à ne pas rechuter, car alors il tomberait encore plus bas, probablement. Pourquoi peut-on dire ça? Parce que également les guérisons physiques dans l'Évangile, tous ceux qui sont comptables de ces guérisons physiques, cela renvoie aussi à des guérisons spirituelles. Parce que les aveugles, les boiteux, les paralytiques, les sourds-muets, tout ça, c'est aussi, bien sûr, le signe d'infirmité. C'est d'abord le signe d'infirmité physique, mais c'est aussi les signes d'infirmité spirituelle. Parce que certains pères disent que à nos cinq sens physiques correspondent cinq sens spirituels. Et ceux-ci sont atteints par le fait de notre nature déchue, ils sont malades. Donc d'où l'avertissement également du Christ aux paralytiques. Alors, si on va un peu plus loin, on peut dire que la guérison qui est opérée un jour de sabbat, qui plus est, sabbat qui correspond à une grande fête, est opérée par celui dont les synoptiques nous disent qu'il est le maître du sabbat. C'est donc, s'il est le maître du sabbat, c'est lui qui l'a institué, pour que l'homme se libère de son travail et se tourne vers Dieu. Inutile de dire alors que le signe accompli, eh bien, il montre l'autorité de celui qui l'accomplit, bien sûr. Et les pharisiens ne reconnaîtront pas cette autorité, mais seulement celui qui, en accomplissant ce signe le jour du sabbat, s'est fait transgresseur de la loi. Ils ne retiendront que cet aspect des choses. Peut-être alors aussi, en allant encore un peu plus loin, il faut dire que en accomplissant ce signe, cette guérison, dans l'accomplissement de ce signe, de cette guérison, il y a aussi une dimension eschatologique, parce que son auteur est celui qui vient, en ces temps qui sont les derniers, et donc acter la présence du salut parmi les hommes. On peut, je pense, à bon droit aller dans ce sens. Et une fois que la guérison est accomplie, nous avons donc dans les versets 16 à 18, après le témoignage de celui qui a été guéri, nous avons un face-à-face entre Jésus et les Juifs. lesquels l'accusent de transgresser la loi, puisque il y avait cette interdiction de porter, cette interdiction qui figurait dans cette collection d'interdictions que nous trouvons dans la Mishnah, de porter ces charges durant le sabbat. Donc, de leur point de vue, la guérison elle-même n'offre aucun intérêt. Ce qui est concerné uniquement par eux, c'est la transgression de l'interdit. Et évidemment, ce qu'ils estiment être une transgression va susciter de leur part une hostilité telle qu'ils veulent le faire périr, nous dit le texte. C'est pas la première fois d'ailleurs, parce qu'on voit très bien que dès le début du ministère public, l'hostilité des chefs, des juifs, des scribes et des pharisiens est manifeste. Mais plus on avance dans l'évangile, on va voir, plus cette hostilité va se transformer en une haine très solide, une haine qui va aller jusqu'à l'intention de tuer Jésus. Remarquons que Jésus ne répond pas sur le terrain de la transgression, il ne se justifie pas sur ce plan-là, mais il donne cette parole: « Mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Et pour cela, donc, non seulement il est accusé d'avoir transgressé l'interdit du sabbat, mais en plus, bon, il est accusé de blasphème, puisque il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu, nous dit le verset 18b du chapitre 5 de Saint Jean. Donc vous voyez, la réponse du Christ, elle va se situer sur un plan différent que le premier visé par la critique pharisienne. On s'attendrait justement que le Christ riposte à cette critique pharisienne, à savoir la transgression de l'observance de l'interdit de porter des choses au jour du sabbat. On s'y attendrait d'autant que dans les synoptiques, à plusieurs reprises, le Seigneur part de ce niveau pour justifier un acte assimilé par la casuistique pharisienne à une transgression. Par exemple, dans Marc 2, versets 23-26, nous le voyons. « Et il advint, je cite, « et il advint qu'un jour de sabbat, il passait à travers les moissons, et ses disciples se mirent à se frayer un chemin en arrachant les épis. » Et les pharisiens lui disaient: « Vois, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il entra dans la demeure de Dieu au temps du grand prêtre Abiathar et mangea les pains d'oblation qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres, et en donna aussi à ses compagnons. » Donc là, vous voyez, il se place bien justement dans le cadre d'une réponse à la critique des pharisiens. Un autre récit, toujours dans Saint Marc, vous savez, c'est le récit de la guérison d'un homme à la main sèche, ou à la main desséchée, comme on voudra. Toujours un jour de sabbat, je cite, « Et il l'épiait pour voir s'il allait le guérir, le jour du sabbat, afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer ? Et dans la suite du récit, donc, nous savons que l'homme fut guéri et que les pharisiens tinrent conseil pour perdre Jésus, nous dit saint Marc. Donc, en finale de ces deux guérisons, on voit là quelque chose de semblable, c'est la volonté de perdre Jésus. Mais là, dans notre cinquième chapitre de saint Jean, le contexte est quelque peu différent, puisque il y a cette parole de Jésus : mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Autrement dit, là, nous sommes en face d'une parole de révélation. Parole de révélation qui nous introduit directement dans le mystère de la personne même du Christ. Et évidemment, cette parole se situe sur un tout autre plan que celle que je viens de citer et qui relève de l'évangile de saint Marc. Alors, pour comprendre cette parole, il faut bien se remémorer le récit de la création. La création, donc, est achevée le sixième jour, dans le premier chapitre de la Genèse, avec les animaux puis l'homme, qui est couronne de cette création. Et le texte nous dit: le septième jour, Dieu se repose. Et il, du fait qu'il se repose, il libère l'homme de sa peine journalière pour que cet homme, qui est sa créature, puisse se consacrer à lui. Pour qu'il se repose à son tour et de son ouvrage et qu'il fasse mémoire des merveilles accomplies en sa faveur. C'est le sens de la prière, c'est le sens de l'action de grâce. On fait mémoire des merveilles que Dieu accomplit en faveur de sa création et de l'homme en particulier. Mais évidemment, le repos dont on parle, le repos de Dieu, cette expression étrange finalement, Dieu qui se repose, le repos de Dieu dont on parle dans la Genèse ne signifie pas pour autant que, parce qu'il se reposerait, il limiterait sa souveraineté ou qu'il suspendrait sa providence par laquelle il maintient toute chose. Bien sûr que non. Bon, ce repos n'est pas en Dieu n'est pas signe d'inaction qui ferait que, bon, pour un temps, sa souveraineté flotterait dans les airs, si j'ose dire, et sa providence n'agirait plus. Bien au contraire, puisque saint Jean nous dit dans son premier chapitre que le Père agit par son Verbe créateur. En faveur de sa création, qui est l'œuvre même de sa bonté, parce que la création n'a pas de nécessité, c'est une œuvre d'amour de Dieu. Dieu n'a pas besoin, en rigueur de terme, il n'a pas besoin de la création, et s'il l'a fait venir du néant à l'existence, c'est par amour, c'est-à-dire c'est par un acte qui correspond profondément à sa nature même. Comme le dit saint Jean dans la première épître, Dieu est amour, donc il est don total, parce qu'il y a une relation, évidemment, intime entre l'amour et le don. Et cette création qui est l'œuvre de sa bonté, eh bien, elle doit aller au terme du dessein que Dieu lui assigne. Elle doit aller donc à l'accomplissement des temps. Bon, nous savons, dans ces dimanches de Grand Carême, nous avons la grande prière d'action de grâce de la divine liturgie de Saint Basile le Grand. L'anaphore de Saint Basile le Grand est particulièrement développée et vraiment, c'est un texte absolument admirable et qui reprend justement toute l'œuvre que Dieu accomplit en faveur de sa création. Bien que sa création se soit détournée de sa source, elle n'a pas été abandonnée. L'homme n'est pas abandonné à la corruption de la mort. Et Dieu a formulé en sa faveur un dessein pour le sauver. Et donc, cette création, elle doit aller à l'accomplissement, elle doit aller vers l'accomplissement de ce dessein de Dieu, et c'est l'œuvre du Verbe éternel qui a pris la nature humaine, justement, pour accomplir ce dessein de Dieu en notre faveur. Et c'est à tout cela, justement, que le repos du septième jour rend grâce. Et d'ailleurs, on remarquera à ce propos-là que, avec le Christ, nous passons aussi à un autre ordre de temporalité. D'abord, il vient quand les temps sont accomplis. Quand les temps sont accomplis, ça ne veut pas dire forcément la fin de ce monde présent. Les temps sont accomplis selon le temps de Dieu, selon le kairos de Dieu, selon le dessein de Dieu. Bon. Le monde peut durer des millions d'années, ça ne change rien au fait que le Christ est venu au milieu de nous, qu'il a pris notre nature, sans changer quant à sa divinité, et il est venu quand les temps sont accomplis. Et en même temps, il instaure une autre temporalité, parce que le jour de la résurrection, c'est le huitième jour, et le Christ est l'homme du huitième jour. Qu'est-ce que c'est que le huitième jour? C'est le jour avec un grand J. C'est pas n'importe quel jour du temps qui défile, du chronos. C'est le jour avec un grand J, c'est le jour sans déclin. Et c'est donc l'inauguration du royaume avec la venue du Christ, même si le royaume n'est pas encore advenu en plénitude. Alors Jésus nous dit que de même que le Père ne cesse d'agir, qu'il est toujours à l'œuvre, il en est de même pour lui, puisque l'agir du Père et son agir propre sont inséparables. Ils sont inséparables parce que en toute chose, et c'est précisé maintes fois dans l'Évangile, dans les Évangiles, aussi bien dans l'Évangile de Jean que dans les synoptiques, Jésus accomplit en toute chose le dessein du Père. Il est venu pour accomplir en toute chose la volonté, le dessein du Père en notre faveur. Alors, outre le fait que le Fils de l'homme est le maître du sabbat, et je rappelle que ce titre de Fils de l'homme, c'est pas n'importe quoi. Là, ce titre de Fils de l'homme n'a rien à voir avec la succession biologique des hommes. Hein. C'est un titre messianique que l'on trouve dans la prophétie dans l'Ancien Testament et que l'on retrouve en Marc, en Luc, bon, pour ce qui nous concerne, avec ce titre de maître du sabbat, Marc 2, 28, Luc 6, 5, Matthieu 12, 8. Et donc, cette parole du Christ de l'identité de l'agir du Père et du sien, eh bien, elle nous révèle quelque chose de très important sur sa relation au Père, sur sa filiation divine et sur sa mission pour l'accomplissement du dessein du Père en faveur des hommes. Alors ça, j'en ai fini avec la première partie, la première section de ce chapitre 5. Et après l'accusation des pharisiens au verset 18 et l'hostilité qu'ils manifestent par rapport à Jésus, la seconde section de notre chapitre s'ouvre au verset 19. Et là, donc c'est tout un ensemble de paroles de Jésus qui nous donne à connaître, qui nous révèle. C'est des paroles de révélation, on peut appeler ça comme ça. Ce sont des paroles de révélation qui nous enseignent sur le mystère de sa personne. On va en citer quelques-unes pour y revenir. D'abord, le Fils est dans l'intimité du Père, et ça fait très directement écho au premier verset du prologue de Saint Jean. Le Fils dépend complètement du Père et il ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Donc ça c'est au verset 19b. Deuxièmement, le Père et le Fils sont liés par un amour ineffable, fondé sur un don total et sur le don total et réciproque. Et il sera montré des œuvres plus grandes encore que la guérison du paralytique. On va y revenir. Au point de provoquer la stupeur de ceux qui les verront, nous dit le texte. Alors, don total et réciproque du Père et du Fils. Bon, il faut rappeler là que en Dieu, il y a évidemment cette unité d'essence, et qu'il y a les caractéristiques hypostatiques de chacune des personnes, ce mystère à la fois de l'unité de Dieu, et en même temps, ce mystère qui nous est révélé de la communion des personnes et de la caractéristique hypostatique de chacune des personnes de la Sainte Trinité. Mais il nous est donné comme ça quelque chose d'un aperçu de ce qui relève de la vie intra-trinitaire. C'est le don total des personnes entre elles et la circulation d'amour entre les personnes de l'unique divinité. Des œuvres plus grandes encore que la guérison du paralytique provoqueront, nous dit le Seigneur, la stupeur de ceux qui les verront. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Eh bien, je pense que c'est lié au fait que c'est l'accomplissement de ces œuvres sépareront ceux qui en seront les bénéficiaires, ceux qui en seront les témoins. Eh bien, certains d'entre eux les recevront, les accueilleront, les feront leurs, ces paroles et ces signes, et d'autres, au contraire, bien loin d'être dans une attitude spirituelle et intérieure d'accueil, se fermeront et s'endurciront. Parce que, nous le savons, par de multiples exemples que nous trouvons dans l'Ancien Testament, l'exemple le plus célèbre, c'est celui de Pharaon. La parole de Dieu, chez certains, elle endurcit le cœur et alors que cette parole de salut est adressée à tous, eh bien, elle est une pierre d'achoppement dans le sens que d'aucuns s'ouvrent à elle et l'accueillent, et d'aucuns endurcissent leur cœur, se ferment et endurcissent leur cœur lorsque elle leur est adressée. Troisièmement, le Fils, le Verbe incarné, donc il est venu investi d'une mission. Cette mission, il l'accomplit intégralement parce qu'il est venu pour accomplir totalement la volonté du Père. Et nous en avons des exemples, puisque, par exemple, nous approchons de la grande et sainte semaine. Nous avons l'exemple quand le Christ dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », la coupe du sacrifice qu'il va boire intégralement. Et tout de suite après, il dit « Mais qu'il est là pour accomplir en toute chose la volonté de celui qui l'a envoyé. » Quatrièmement, le Père, bien sûr, a la souveraineté, il est Seigneur, et cette souveraineté, il la donne au Fils. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. C'est au verset 21. Cinquièmement, l'un des signes de cette souveraineté qui est donnée au Fils réside dans le fait que le Fils reçoit du Père le jugement. Parce que de même que le Père a la vie en lui-même, il ne la tient de personne d'autre que de lui-même, le Fils aussi a la vie en lui-même comme don du Père et il a reçu le pouvoir d'exercer le jugement. Souveraineté et jugement, donc. Donc, nous trouvons un certain nombre de caractéristiques qui nous enseignent sur la personne du Christ, son unité avec le Père, l'intimité qu'il partage avec le Père, l'amour qu'il a en commun avec le Père, l'essence qu'il a commune avec le Père, la vie, la souveraineté, le jugement. Là, on a bien des révélations sur le mystère du Christ. Et il faut noter que ces révélations sont faites par le Christ lui-même. Ces révélations du Christ, faites par lui-même, montrent sa création divine, sa condition divine, pardon. Ce ne sont pas des démonstrations, mais le Christ montre qui il est, montre qui il est. Il montre qu'il est de condition divine. Parce qu'à Dieu seul appartiennent la vie, la souveraineté sur tout ce qui est créé, les choses visibles comme les invisibles, hein, nous disons dans le symbole de la foi, le jugement, donc l'exercice de la justice et de la miséricorde inséparablement, eh bien, cette condition divine, affirmée par le Christ lui-même, est soulignée par sa filiation. Très important, ça. Et de ce fait, comme fils, le Christ n'agit jamais indépendamment du Père, et l'agir de l'un est tout entier engagé dans l'agir de l'autre. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment tout à fait essentiel, et on est au cœur de la révélation du mystère de la personne du Christ. C'est pourquoi d'ailleurs, allons avec saint Paul, dans l'Épître aux Colossiens, le Christ est dit « image, icône du Dieu invisible, empreinte du Père. » Alors, le but de tout cela, c'est justement que, et le Christ le dit lui-même au chapitre 4, c'est d'engager ceux des hommes qui l'écoutent à recevoir la vie offerte. Il donne le don, il fait don de la vie, de la vraie vie, bien sûr. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est un écho très direct du 12e verset du premier chapitre du prologue. Et en faisant ce don, il a pour but de conduire l'œuvre du Père à son achèvement. Ma nourriture, dit-il, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Et de ce fait, donc, le Fils fait vivre qui il veut. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait vivre qui il veut? Ben, ça veut dire que ceux qui l'accueillent, ceux qui le reçoivent, eh bien, le Christ les fait vivre car il leur fait ce don gratuit. L'élection, c'est un don gratuit, et la vie que le Christ donne, c'est un don gratuit au bénéfice de ceux qui l'accueillent, qui la reçoivent et qui en vivent, bien sûr. Tout ça, ce sont des choses complètement inséparables. On accueille, on reçoit pour en vivre. Avec toutefois, dans ce discours du Christ au verset 23, avec toutefois cet avertissement, qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ça sera repris d'ailleurs dans l'épître, la première épître, cette affirmation-là. En vérité, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'expérience que le Fils a de lui-même est ici décrite, semble-t-il, pour la première fois. Le père Pavel Florovski montre que la révélation de l'agir du Fils, qui est le même que celui du Père, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous permet d'entrevoir le mystère de la relation Père-Fils. Entrevoir, simplement, parce que il ne nous est pas donné de connaître au-delà de ce qui nous est nécessaire pour notre salut. C'est-à-dire que quand on parle des relations Père, Fils et Saint-Esprit, c'est toujours en rapport avec l'œuvre que le Dieu unique, communion de trois personnes, agit, l'action donc de cette Sainte Trinité en faveur des hommes. Donc on ne peut entrevoir, j'insiste là-dessus, on ne peut qu'entrevoir le mystère de la relation père-fils, comme nous le dit le père Pavel Florovski. Et il nous dit qu'il est certain, cependant, qu'on ne saurait aller au-delà de l'amour du Père pour le Fils avant même la création du monde. Nous ne pouvons, en la circonstance, que reprendre la parole du Seigneur à la fin de la grande prière sacerdotale, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ça, c'est au verset 24 du chapitre 17 de Saint Jean. Ça qu'il faut retenir, « afin qu'ils contemplent ma gloire. » Alors, dans l'évangile de Jean, ce thème du Père comme source de l'activité du Fils, mais il est constamment présent, pas seulement dans ce que dit Jésus aux pharisiens, tel que je l'ai rappelé au début, mais c'est un thème qui est récurrent dans l'évangile de Saint Jean, mais qui est aussi très, très présent dans les synoptiques. Le faire, le dire du Christ sont toujours reliés au Père. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis et que je ne... Et là, c'est je suis. Hein. Donc ça fait écho à la parole que Dieu adresse à Moïse sur la Sainte Montagne, hein, quand on lui demande, quand Moïse lui demande, lui pose la question de connaître son nom. Vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. C'est le verset 28 du chapitre 8. Donc ce que le Père montre au Fils, le Fils le dévoile au monde, le révèle. Dévoiler, révéler, c'est la même chose, hein. Il le révèle par des signes, par des paroles, par des œuvres, par des guérisons, par son enseignement également, tout cet ensemble de choses par lequel il manifeste son pouvoir de communiquer la vie. Parce que les hommes séparés de la source divine sont morts. La nature déchue, c'est une nature mortelle. Donc, cette nature déchue, pour être sauvée, elle a besoin qu'on lui communique la vie. Et seul Dieu peut communiquer la vie. L'homme ne peut se communiquer la vie à lui-même. Seul Dieu peut lui communiquer. Et c'est bien cela, tout le sens de l'abaissement du Verbe de Dieu qui s'est fait homme, qui est descendu jusque dans l'Hadès, et qui, au sein même de l'Empire de la Mort, a fait jaillir la vie et la puissance de la vie. Et c'est le sens de sa mort et de sa résurrection. Autrement dit, cet enseignement, ces œuvres, ces signes accomplis, eh bien, ils ont pour but de communiquer la vie, et ils sont des actes de salut, parce que ces actes de salut ont comme propriété remarquable d'apporter la guérison. Mais pas seulement la guérison physique des malades, des impotents, telle qu'elle se pratique avec le paralytique de la piscine de Bethesda, mais des guérisons qui sont synonymes de retour à la santé. Et cette santé, quelle est-elle? Eh bien, c'est le retour à la véritable nature de l'homme. La guérison que le Christ apporte, c'est finalement de nous guérir de cette nature corruptible et mortelle à cause de la séparation d'avec la source de vie issue de la transgression d'Adam. Et en nous guérissant, il nous ramène à notre véritable nature, celle pour laquelle nous avons été créés. Et justement, en héritant de la nature déchue, eh bien, nous entrons dans le péché, c'est-à-dire que nous manquons la cible pour laquelle nous avons été créés. C'est ça la signification exacte du mot de péché. Donc, nous sommes désorientés par rapport à notre finalité, celle pour laquelle nous avons été amenés du néant à l'existence. Il faut remarquer aussi que cette guérison que le Christ apporte, cette guérison de l'humanité malade, cette guérison de l'humanité enfermée dans le cycle infernal de la corruption et de la mort, eh bien, elle est apportée aussi dans l'ici et maintenant de notre vie. Bien sûr, à la consommation des siècles, il reviendra dans la gloire. Il est venu, lors de sa première venue, il est venu dans l'abaissement, dans la kénose. Lors de sa seconde venue, il reviendra dans la gloire. Donc, mais dès à présent, la semence de guérison, de retour à la santé, la semence de résurrection, s'adresse à nos vies, ici et maintenant, si nous accueillons celui qui nous amène la vie, si nous l'accueillons, si nous le recevons, et si nous vivons du don inestimable qu'il nous fait. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui est simplement en puissance d'advenir à la fin des temps, mais ça nous concerne également tout de suite dans le concret de nos vies d'aujourd'hui. Notons plus exactement aussi que les œuvres plus grandes encore qui sont à venir et qui ne sont pas décrites dans le chapitre 5, eh bien, elles seront l'occasion d'un partage parmi les hommes, dans la mesure, je l'ai dit tout à l'heure, elles obligent les hommes à prendre position. Prendre position de Christ est toujours une pierre d'achoppement, en définitive. Parce qu'il oblige tout un chacun à prendre position, pour ou contre lui. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette perspective. On est pour le Christ ou on est contre lui. Pourquoi ? Parce que la parole opère le jugement. Elle opère le jugement, la parole. Elle est comme un glaive à deux tranchants. Elle opère le jugement. Et selon l'état intérieur de l'homme, elle est accueillie, ou elle est puissance de vie, ou au contraire, elle est endurcissement. Elle endurcit le cœur de celui à qui elle est adressée. Tout ça, c'est lié à l'état intérieur de l'homme qui écoute, qui reçoit ou non cette parole de vie. Et je rappelle que cette parole de vie, c'est pas une succession de mots, c'est une personne qui s'adresse à nous. L'Écriture sainte, c'est nous conduit à une relation de personne à personne, parce que c'est, dans l'Écriture sainte, c'est une personne qui nous parle. Une personne qui nous parle. Et qui est cette personne ? C'est le Christ. Le Christ est au centre de toute l'Écriture, d'une manière voilée d'abord dans l'Ancien Testament et d'une manière dévoilée dans le Nouveau, mais c'est toute l'Écriture converge vers lui. Et donc, c'est une parole qui nous est adressée. Je ne sais plus quel père disait que lorsque nous lisons l'Évangile, c'est le roi des cieux qui s'adresse à nous. Et c'est tout à fait juste et véridique. Alors, il ne faut pas perdre de vue également que le jugement qui est remis par le Père au Fils, tel que nous dit le chapitre 5 de Saint Jean, il a une perspective eschatologique. Le jugement, il est remis à qui ? Il est remis au Fils, de l'homme. Fils de l'homme, titre messianique, titre lui-même eschatologique. Ce jugement, c'est un attribut divin par excellence. Et on le trouve dans les prophéties de l'Ancien Testament déjà. Particulièrement, j'en citerai une, Daniel 7, les versets 13-14. C'est la vision de Daniel Je regardais, c'est un texte vraiment puissant. Hein. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence, et il lui fut donné, écoutez bien, souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues, le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Voilà, fin de citation de cette vision de Daniel qui, c'est la vision du Christ, hein, finalement. La souveraineté, la gloire, la royauté, donc, entre autres choses, la tribu du jugement que Dieu, le Père, remet au Fils de l'homme, au Christ, le Messie. Donc le long du discours, tout au long du discours de Jean 5, 19, 30, on a une progression dans la révélation de du mystère de la personne du Christ. Et ça va culminer sur l'évocation en écho à la prophétie de Daniel 12.1, ça va culminer sur la résurrection. Toute l'œuvre de Dieu accomplie par le Christ, ben, elle a un but. Hein, on a insisté à plusieurs reprises là-dessus. Ce dessein, l'accomplissement de cette œuvre, il est en vue d'un but. Quel est ce but? C'est le triomphe de la vie. Et ce triomphe, évidemment, le Christ va l'assurer par sa mort vivifiante et sa glorieuse résurrection. Donc, autrement dit, celui dont Daniel nous parle, le prophète Daniel nous parle, qui a reçu la souveraineté, la gloire et la royauté, eh bien, il apporte le triomphe de la vie. Mais selon la sagesse de Dieu, c'est-à-dire par son propre abaissement, jusque dans l'empire de la mort, il va faire éclater la puissance de la vie, il va faire triompher la vie et ramener à la vie ceux qui sont dans les tombeaux. Et là, le texte nous dit très clairement que, contrairement à ce qui avait été suggéré plus haut, que dans cette œuvre la plus haute, donc qui est celle du triomphe de la vie, là, il n'y a plus lieu de s'étonner. Il n'y a plus lieu de s'étonner. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement, puisque là sont opposées ces deux notions. Nous avons vu que le Christ opère une séparation, donc un jugement. La parole de vie opère une séparation, donc un jugement. Et la résurrection elle-même a, si j'ose dire, deux faces. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. Dans le premier cas, c'est la résurrection. Dans le premier cas, bon, c'est très clair, c'est la résurrection pour la vie, mais dans le deuxième cas, c'est la résurrection pour la condamnation dont il s'agit. Bien, parce que ça découle tout naturellement hein, de tout ce qui précède. Tous ceux qui auront mené une vie non conforme au commandement de la parole de vie, usant pour le mal de leur liberté, parce que tous sont créés libres. Le Seigneur crée l'homme libre, place devant lui la voie de la vie et la voie de la mort. Et ceux qui auront choisi, par un exercice dévoyé de leur liberté, ceux qui auront choisi donc la voie de la mort, auront prononcé sur eux-mêmes le jugement. Ça qu'il faut bien voir également. Ils auront d'abord prononcé sur eux-mêmes le jugement, et c'est la raison pour laquelle le jugement du juste juge ne sera que justice. Vous voyez ? Alors, il faut remarquer que les derniers versets du discours sur le pouvoir du Fils, eh bien, ils nous parlent de la résurrection comme devant advenir de façon imminente, puisque l'heure vient. Bon. À cette réserve près qu'il ne faut pas commettre le contresens sur lequel je me suis expliqué tout à l'heure, hein, s'agissant de l'heure. Hein. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, je pense que ça a été tout à fait clair. Et là, c'est justement pour nous enseigner deux aspects de la résurrection. Il y a d'abord la résurrection générale à la consommation des siècles, et il y a aussi un deuxième aspect, cette résurrection dans l'aujourd'hui de nos vies chrétiennes, qui est liée au thème du salut et de la guérison. Je veux dire, toute forme de guérison spirituelle, c'est déjà une résurrection. Dès l'ici et maintenant de nos vies, là aussi je ne m'étends pas, puisque on en a parlé de manière suffisamment précise. Et ceux qui entendent la voix du Fils de l'homme, le Christ le dit en parlant d'eux, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Là, vous voyez, il parle au présent. Il ne dit pas « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle, il ne viendra pas en jugement. » Non, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est dit très clairement au verset 24. Tout cela, c'est au présent, donc cela concerne bien le salut dès le présent. Et ce salut-là, il est comme les arts de la résurrection générale. Bien sûr, il est promis à la plénitude, à l'accomplissement total, à la consommation des siècles, mais il est déjà dans l'aujourd'hui de nos vies, si nous suivons les commandements de vie que le Christ nous enseigne. Donc, c'est un salut au présent, ce sont des guérisons spirituelles au présent, ce sont des résurrections au présent. Relèvement, résurrection, guérison, salut, santé, tout ça, ce sont des réalités qui s'entremêlent de manière très intime. Et enfin, donc, la troisième partie de ce cinquième chapitre, les versets 31-47, là, c'est la question des témoignages. Après ce discours que le Christ donne devant ses contradicteurs, vient la question des témoignages. Nous savons que, selon les prescriptions de la loi mosaïque, il faut des témoignages pour attester la véracité de son discours, pour montrer que son discours est vrai, que ce qu'il révèle de sa personne les attributs divins de sa personne, ce qu'il révèle de sa condition divine, eh bien, il faut qu'il ait des témoignages pour que ça soit reçu comme vrai. On sait selon la loi que si on se rend témoignage à soi-même, et d'ailleurs c'est dit hein, dans les versets 31-32, eh bien ce témoignage n'est pas valable. Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas recevable. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est conforme à la vérité. Alors on va voir comment ça se passe. D'abord, est évoqué le témoignage du précurseur, autrement dit le témoignage de Saint Jean-Baptiste. Ce témoignage, d'ailleurs, il en était déjà question dans le prologue de l'évangile de Jean. Jean lui rendit témoignage. Bon. Et là, donc au verset 33, vous avez envoyé une délégation auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. On le voit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 7 à 11, qui évoque la question de Jean et la question posée par Jean et la réponse de Jésus. Bon, il y a déjà le témoignage du Baptiste, mais ça va bien au-delà dans cette section du chapitre 5 qui concerne la question des témoignages. Parce qu'en vérité, ce qui est visé là, ce n'est pas seulement le témoignage d'un homme. On comprend pourquoi d'ailleurs. Hein. Parce que, vu les paroles prononcées dans le discours du Christ au verset 19 à 30 du cinquième chapitre, paroles qui nous révèlent, qui nous disent le mystère de sa personne, on comprend que ça serait quand même un formidable recul en arrière s'il se contentait d'un témoignage d'un homme, sans pour autant qu'il le dédaigne. Il ne méprise pas le témoignage du Baptiste, bien sûr. Puisqu'il est dit au verset 35, « Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière. » Donc, ce témoignage a toute sa place, a toute son importance, mais ça n'est qu'un témoignage d'homme. D'homme éminent, puisque c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, d'homme véridique, mais c'est un témoignage d'homme. Donc sur la question du témoignage, on va aller beaucoup plus loin. Parce que le Seigneur va nous dire qu'il possède un témoignage beaucoup plus essentiel, non d'un homme, mais de Dieu. Pourquoi ? Par le fait que les œuvres même qu'il accomplit, c'est Dieu le Père qui lui a donné à accomplir. Et dans l'accomplissement de ses œuvres par le Christ, qui en toute chose accomplit la volonté du Père, qui est venu parmi nous, l'Immanuel, Dieu avec nous, pour accomplir tout le dessein de Dieu en faveur des hommes, eh bien, dans l'accomplissement même de ses œuvres réside le témoignage de Dieu le Père en faveur de qui ? En faveur du Christ. Vous voyez ? C'est dans cet accomplissement, c'est dans le faire du Christ, donc dans l'œuvre qu'il accomplit, eh bien, réside la vérité, la puissance de ce témoignage de Dieu le Père en sa faveur. Parce que les signes qu'il accomplit, dont l'évangile portent le témoignage, qu'il s'agisse des guérisons, qu'il s'agisse du pardon des péchés. Les signes qu'il accomplit attestent qu'il vient de Dieu. Attestent qu'il vient de Dieu. Ses guérisons, ses résurrections, ce pardon des péchés, tout ça, ce sont des œuvres divines, ce sont l'expression d'un pouvoir divin. Donc, ces signes attestent justement qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il vient de Dieu. Et la conséquence immédiate, eh bien, c'est que l'on refuse de reconnaître ce que le Père a donné au Fils, hein, la souveraineté, la gloire, la royauté, le jugement, le pardon des péchés, la guérison, le pouvoir de guérir l'humanité malade, eh bien, de ce fait, on manifeste sa propre rupture avec le Père. Et c'est la signification de ce qui est dit. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. Et à ce propos-là, d'ailleurs, ça, je me souviens d'une parole, mais je ne me souviens plus l'auteur de cette parole. Que Dieu me pardonne, mais c'est une parole qui est aussi très significative. Et qui dit ceci, dire que le Christ n'est pas Dieu, c'est dire anathème à Jésus. On est bien au cœur de notre problématique du chapitre 5. Autre témoignage, c'est le témoignage des Écritures elles-mêmes. Verset 39, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vérité éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Alors là, donc, nous avons tout de suite à l'esprit l'entretien avec les pèlerins d'Emmaüs après la résurrection. Hein, ces braves pèlerins d'Emmaüs qui disent à l'inconnu qui chemine avec eux, mais bon, enfin, bon, tu n'es pas au courant des dernières nouvelles, de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et, bon, qui sont tout dépités parce qu'ils en sont restés à la mort sur la croix. Et ils le reconnaîtront à la fraction du pain. Nous savons, hein, dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 24. Et bien, il y a quelque chose, il y a une parole du Seigneur là qui est très importante et qui fait écho à ce verset 39 de Saint Jean, chapitre 5. Et commençant par Moïse, donc il les instruit, hein, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, verset 27. Entre parenthèses, nous avons là la règle fondamentale, la règle d'or de toute l'herméneutique chrétienne de l'Écriture. Toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, est lue en fonction de la personne du Christ qui en est comme le centre. L'incarnation, la mort, la résurrection et l'élévation du Christ sont l'accomplissement final du dessein de Dieu. Donc, accomplissement, aboutissement de la pédagogie de la loi. Saint Paul nous dit que la loi est le pédagogue qui nous mène au Christ. Donc ça, la loi a sa légitimité comme pédagogue qui nous conduit au Christ. Aboutissement et réalisation de la promesse prophétique. Les prophètes d'Israël qui ont annoncé la venue du Messie et l'accomplissement du dessein de Dieu. Au verset 43, il est dit... « Mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, je suis venu au nom de mon Père et vous refusez de me recevoir, qu'un autre vienne, ça c'est vraiment très important également, qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevez. » C'est-à-dire que là, il a apporté les témoignages donc du Baptiste, du Père des cieux, de celui qui l'a envoyé, de celui qui atteste la, son témoignage par le fait que celui qui est envoyé accomplit toute l'œuvre de dessein de salut à notre égard. Le témoignage, les témoignages multiples de l'Écriture sainte. Et malgré cela, au mystère d'iniquité, eh bien, beaucoup refusent et refuseront de le recevoir, alors qu'ils accorderont leur crédit à ceux qui sont en quelque sorte autoproclamés, qui viendront à leur propre nom, qui n'auront pas de témoignage en leur faveur et qui pourtant seront reçus. Alors, il nous est dit que ceux-là, justement, qui parlent en leur propre nom et qui malgré tout sont reçus, eh bien, ils appartiennent à ce monde. On retrouve là cette dichotomie entre le monde et ce monde dans l'évangile de Jean. Le monde qui est tient, comme nous disons dans la prière liturgique, donc qui est création de Dieu, et ce monde qui est le monde séparé de la source de vie. Et bien sûr, là sont visés ceux qui sont séparés de la source de vie, qui appartiennent à ce monde et qui par conséquent plaisent à ce monde. Bien sûr. Le monde reconnaît les siens et ceux qui lui appartiennent lui plaisent. Ceux-là, justement, nous dit l'Évangile, cherchent leur propre gloire, comme dit le verset 44, au lieu de celle qui vient de Dieu seul. Et là, il y a une parole tout à fait intéressante également, qui est conclusive. C'est par qui ceux-là seront jugés ? Ça nous ramène au contexte initial de la controverse entre Jésus et les pharisiens, à propos, controverse qui est démarrée donc à propos de la transgression, l'accusation de transgression pour un signe accompli le jour du sabbat, donc en transgression d'un des articles de la Mishnah. Ceux-là auront un juge, et il est dit que ce ne sera pas le Christ qui sera leur accusateur, mais Moïse, puisque sont concernés, quand on parle de ceux-là, c'est bien les contradicteurs de Jésus dans le cadre de la controverse à propos de la guérison du paralytique de Bethesda. C'est Moïse qui se fera leur accusateur. Et là encore, donc, il y a le témoignage. Pourquoi Moïse sera l'accusateur de cela ? Eh bien, parce que Moïse a témoigné en faveur du Christ. Il y a donc des témoignages en sa faveur, témoignage de Moïse en la faveur du Christ, qu'on trouve dans la Genèse 3,15, où il est annoncé que la victoire du Messie, il est annoncé la victoire du Messie sur le mal. En Nombre 21,9, avec, vous savez, la fameuse image au désert du serpent d'airain fixé à la hampe. Et lorsque on est mordu de façon... On est mordu, oui, donc, et cette morsure qui est mortelle, si on tourne son regard vers le serpent d'airain, on reçoit la guérison. Et évidemment, toute la tradition chrétienne, là, a vu l'annonce de la croix et de sa victoire. Si on a le regard tourné vers la croix, on a le regard tourné vers l'instrument de la victoire sur la mort. Parce que sur ce bois est montée la vie. La vie qui ne pouvait... qui est passée par la mort, mais qui ne pouvait être saisie, accaparée par la corruption de la mort. Parce que c'est la vie divine. Alors, c'est un deuxième témoignage en faveur du Christ. Et puis le troisième, qui est dans Deutéronome 18:15, c'est le prophète annoncé par Moïse lui-même, un prophète tiré parmi ses frères et qui portera une parole de vie. Et là aussi dans la tradition chrétienne. Mais en cela appuyé sur la tradition juive, c'est une annonce traditionnelle du Messie. Et pourtant, là aussi, toutes ces préfigurations du Christ, toutes ces annonces, tous ces témoignages en faveur de celui qui devait venir n'ont pas été reçus. Il est dit au verset 46b, en effet, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Voilà, ainsi se termine cette troisième partie du cinquième chapitre, donc sur la question des témoignages que le Christ invoque en sa faveur. Et donc je conclurai en disant que dans ce chapitre, puisque c'est le sujet de notre parcours dans ce deuxième semestre sur la révélation du mystère de la personne du Christ, dans ce chapitre, le Christ lui-même nous introduit au cœur du mystère de sa personne par le long discours qu'il y prononce.